Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Bienvenue dans cette émission Éclairage consacrée à la Birmanie, à ses traditions, à ses aspects géopolitiques, à sa culture. Nous parcourons ce pays d'Asie du Sud-Est tout d'abord avec Gabriel Defer au travers d'un livre, La Birmanie contemporaine, publié aux éditions Les Indes Savantes. Nous évoquerons ensuite avec Isabelle Gruet une particularité de la culture birmane, j'ai nommé les Natka Do, ces fameux médiums birmans qui se travestissent et qui utilisent le féminin comme lien entre la nature et le surnaturel. Restez avec nous. Gabriel Defer, bonjour. Vous êtes spécialiste de la question birmane, vous êtes historien et politologue, vous avez déjà publié plusieurs ouvrages sur l'Asie du Sud-Est, puisque c'est votre région d'expertise. Aujourd'hui, vous présentez une monographie intitulée « Birmanie contemporaine ». Pourquoi Birmanie contemporaine ?
Alors, votre question contient deux. Pourquoi ce titre-là particulièrement ? Et pourquoi ce thème ? Pourquoi la Birmanie contemporaine ? Alors, je vais commencer par le fond. Pourquoi faire aujourd'hui un ouvrage sur la Birmanie, sur ce qu'est la Birmanie aujourd'hui? Tout simplement parce qu'on le sait très peu. On en parle beaucoup de la Birmanie, on parle beaucoup de sa junte, on parle beaucoup de l'oppression que subit la population. On aura sans doute raison d'en parler, mais on ne parle pas du fait que la Birmanie est un pays de plus de 50 millions d'habitants, qui est plus grande que la France, et qui naturellement a sa vie sociale, politique, économique, les gens vivent. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Donc l'idée de Birmanie contemporaine, c'était de replacer ce pays dans sa réalité, essayer à travers un assez grand nombre de contributions, il y a plus de 15 contributions, arriver à travers ces 15 contributions à donner une image raisonnablement juste, je dirais, de ce qu'est la Birmanie aujourd'hui. Alors pour ça, on a fait appel à plusieurs types d'auteurs par leur spécialité. Il y a des historiens, il y a des journalistes, il y a des diplomates, il y a des sociologues, il y a des économistes, mais aussi il y a des géographes, mais aussi de plusieurs horizons géographiques, puisqu'il y a des Français, beaucoup, des Européens, Allemands, Anglais, mais aussi des auteurs birmans. La plupart des auteurs, d'ailleurs, écrivent sous pseudonyme parce que écrire sur la Birmanie, c'est difficile, c'est délicat et ça ne plaît pas toujours à tort ou à raison. D'ailleurs, ça ne plaît pas toujours aux autorités. Pourquoi Birmanie contemporaine ? Maintenant, le titre. Il y a eu un profond débat parmi les auteurs de cet ouvrage entre les partisans du Myanmar contemporain et ceux de la Birmanie contemporaine. Alors, je coupe court au débat immédiatement. Nous avons choisi Birmanie comme on a choisi États-Unis d'Amérique plutôt que United States of America, ou Biélorussie plutôt que Belarus, parce que l'on francise les noms, tout simplement, et que ce pays s'appelle Burma, Myanmar, ou ce qu'on voudra. L'Académie française, pour l'instant, retient Birmanie comme nom français. Je m'en tiendrai à cette explication étymologique. Je ne veux pas rentrer dans le débat sur la pertinence du choix du nom et de ceux qui ont choisi ce nom. Ce débat, on le retrouve développé abondamment par les différents auteurs. Je le fais moi-même en introduction pour expliquer quels sont les déterminants politiques et culturels et étymologiques, donc les composants culturels, historiques et étymologiques de ce nom.
Est-ce que vous avez eu du mal à faire écrire des Birmans ?
Oui, à plusieurs égards. En premier lieu, parce que les Birmans qui habitent en Birmanie ont légitimement peur de contribuer à un ouvrage étranger, par définition critique. Pas critique au sens où ils critiquent le gouvernement pour critiquer le gouvernement, mais critique au sens de l'esprit critique, au sens de l'esprit des Lumières, c'est-à-dire qu'on a une approche, somme toute scientifique, du pays. Cette approche scientifique qui essaye de comprendre un peu les paramètres, de voir comment ces paramètres se croisent, est tout à fait contraire à l'approche idéologique du régime birman qui souhaite, lui, une présentation univoque qui est de son fait, de ce que devrait être ou de ce qu'est la Birmanie. Par le simple fait d'écrire sur le pays et d'écrire dans des termes scientifiques, on se met en rupture avec le régime. Donc quand on habite en Birmanie et qu'on est birman, on prend par définition un risque. Donc il y avait ceux qui étaient prêts à prendre ce risque et ceux qui ne l'étaient pas, sachant qu'ils sont protégés par leur pseudonyme, mais que c'est une protection relative.
Alors comment vous les avez convaincus ?
Alors pour certains d'entre eux, ça n'a pas été très difficile, puisqu'ils avaient envie de faire œuvre militante en quelque sorte, en exprimant ce qu'ils savaient sur leur pays en fonction de leur spécialité. Nous avons comme ça un article sur la forêt, et notamment un article sur la presse, un article sur la littérature. Les sujets presse et forêt sont particulièrement délicats. Donc j'ai essayé, alors contrairement à ce à quoi je m'attendais, j'étais plutôt un peu contraint de les protéger, de les freiner dans leur élan. L'un d'entre eux, par exemple, ne voulait pas de pseudonyme. Pourtant, ce qu'il écrivait me semblait susceptible de lui apporter des ennuis. Bon, il s'est laissé finalement convaincre de l'intérêt du pseudonyme. Alors ça, c'est une des raisons pour lesquelles il est difficile de faire travailler des chercheurs birmans. Une deuxième raison pour laquelle c'est difficile, c'est que les chercheurs birmans sont extrêmement rares aujourd'hui en sciences sociales. Il n'y a plus, depuis plusieurs décennies déjà, d'universités dignes de ce nom, surtout pas dans les sciences humaines, étant donné leur contenu entre guillemets subversif, vu par le gouvernement en tout cas. Donc il n'y a plus d'universités en sciences humaines, il n'y a plus de jeunes générations qui s'impliquent dans ce métier, c'est un métier à maturation lente, il faut bien des années pour faire un bon chercheur, et ces années, ils ne les ont pas en formation, ils ne les ont pas en exercice professionnel. Donc des gens susceptibles, des Birmans, habitants en Birmanie, susceptibles de construire un article scientifique, entre guillemets, d'une quinzaine de pages, eh bien c'est devenu très 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 difficile à trouver. Alors on peut les aider un peu, on peut les aider à construire leurs propos, on peut les aider à le mettre en forme, mais évidemment ça a des limites. Donc il y a aussi une difficulté à cet égard. On trouve bien sûr de vieux chercheurs de qualité, mais les vieux chercheurs de qualité qui restent en Birmanie, qui ont été formés dans la période de l'immédiate après-guerre le plus souvent, sont des gens d'abord qui sont plus proches de la retraite que de la première communion, comme on dit, qui ont même largement dépassé l'âge de la retraite, pour presque tous. Et puis ce sont des gens qui se sont consacrés, puisque c'était une possibilité, peut-être la seule, qui se sont adonnés à des études d'histoire, qui sont des archéologues, surtout des historiens d'histoire ancienne, et ils n'avaient pas, en tant que tels, leur place dans une monographie consacrée à la Birmanie contemporaine.
Pensez-vous qu'il y ait une demande de lecture sur la Birmanie ?
Comme toujours, en France, on est très collé à l'événement. Je pense que les médias y contribuent beaucoup, mais les médias en même temps ne sont que la chambre d'écho de la société. Ils donnent à la société ce que la société a envie d'entendre. Or, la société est très volatile dans ses intérêts. Alors, il y a eu les événements de septembre 2007 qui ont attiré, qui ont donné un coup de projecteur sur la Birmanie. Un coup de projecteur amplifié d'ailleurs, puisque ces événements n'ont peut-être pas eu l'ampleur qu'on leur a prêtée. En même temps, ils ont eu cet intérêt d'attirer l'attention sur ce pays, sur la Birmanie. Donc un intérêt pour la Birmanie, il y a eu. Si le livre était sorti en septembre 2007, je ne doute pas qu'il se serait considérablement vendu. Pas forcément considérablement lu, mais considérablement vendu. Le fait qu'il sorte plusieurs mois plus tard n'est, sur un plan strictement commercial, sans doute pas très bon. Mais qu'à cela ne tienne, puisqu'en fait le but avec ce livre, c'était d'éclairer les gens qui avaient un intérêt relativement profond pour ce pays, qui voulait aller au-delà des apparences, au-delà du bilan, au-delà de savoir s'il y avait eu X ou X morts, le nombre de morts et de blessés, le nombre de gens en prison en Birmanie, ce qui n'est pas inintéressant comme exercice militant, comme exercice de conscience internationale, mais ce qui est somme toute très réducteur, encore une fois, il s'agit d'un pays. Donc ce livre, je crois, fait la somme. Il n'y a pas eu, je ne crois pas me tromper, en disant qu'il n'y a pas eu, au cours de ces 20 dernières années, d'exercice équivalent nulle part dans le monde. De par l'ampleur qu'on a voulu lui donner, c'est un gros livre, avec, encore une fois, bien des contributions, 20 contributions. Donc, un gros livre avec, je crois, tout ce qu'on pourra vouloir savoir sur la Birmanie sans jamais avoir osé, non pas seulement le demander, mais même le formuler ou l'imaginer.
Gabriel Defer, comment va la Birmanie aujourd'hui ?
Alors, évidemment, ce que tout le monde s'entend à entendre est... Et ce qui n'est naturellement pas faux, tout dépend des critères qu'on lui applique, c'est que la Birmanie va mal. Alors maintenant qu'on a dit ça, qu'on était dans le politiquement correct et dans une forme de réalité, on peut essayer d'aller un petit peu plus loin en essayant de mesurer ce qui va plus mal, ce qui va mieux, et ce que sont les perspectives de présent et d'avenir. Alors, au chapitre de la situation générale, c'est un pays dont les infrastructures sont pauvres. Elles sont pauvres parce que le réseau routier fonctionne très mal, il y a peu de routes, elles sont en mauvais état, il y a peu de moyens de transport, donc des grandes difficultés pour tous les circuits commerciaux, pour commercialiser ne serait-ce que les matières premières agricoles. C'est un pays essentiellement rural, avec 50% du produit national brut qui repose sur l'agriculture. Des difficultés parce qu'il n'y a pas d'électricité, ou très peu. C'est un des pays sans doute les moins électrifiés au monde. Non pas tellement en matière de réseau, même si le réseau est très faible, mais surtout parce que l'État a décidé que les priorités énergétiques étaient ailleurs et qu'il fallait mieux exporter ses ressources en gaz naturel, voire en hydroélectricité, plutôt que de consacrer cette énergie à la population et donc aux petites industries qui, comme chacun sait, sont assez gourmandes d'énergie et d'électricité. Donc il y a un certain nombre de handicaps économiques qui sont forts. Il y a des handicaps politiques qui tiennent au fait que depuis 1962, la Birmanie subit un régime autoritaire, que la contestation n'est pas possible, que nous sommes face à un régime qui est assez sclérosé, c'est une junte, mais c'est une junte qui est de plus en plus centralisée sur un chef d'État qui est âgé et qui est malade et qui est surtout entièrement enfermé dans sa tour d'ivoire, dans la nouvelle capitale, à Naypyidaw, et qui est assez peu conscient des réalités et qui ne veut pas l'être et qui menace implicitement tous les messagers de mauvais augure. Donc toute son administration tremble devant lui, hésite à faire remonter les informations, les décisions ne se prennent pas. Il y a un problème de formation, dont je vous faisais part tout à l'heure, un problème de formation important qui fait que les cadres ne sont pas de très bonne qualité. Les principaux leviers de direction sont tenus par des militaires qui manquent des formations les plus élémentaires en termes de gestion économique et sociale. Sans faire d'antimilitarisme primaire, on pourrait dire, utilisant la formule d'un ancien ambassadeur en Birmanie qu'il affectionnait particulièrement, que l'économie militaire est à l'économie, ce que la musique militaire est à la musique. Et il y a un véritable problème d'économie militaire et de perception de ce qui doit être fait. Donc il y a un tirage excessif des ressources naturelles, une surexploitation des forêts, surexploitation des gemmes, surexploitation des ressources halieutiques du plateau continental, le poisson s'épuise, le bois s'épuise et tout ça est exporté sous forme de licences d'exportation de poissons en prise filet, de bois brut, de gemmes à peine taillées, si bien que finalement la valeur ajoutée est obtenue ailleurs et que la Birmanie tire très 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 peu profit de ses ressources naturelles. On est dans un cadre aussi où le monde rural est au seuil de subsistance, avec et donc victime des aléas climatiques et des différentes difficultés, sans possibilité de stockage des productions alimentaires, sans possibilité de commercialisation dans de bonnes conditions. Donc on est dans une économie très précaire, très fragile, avec un contrôle de l'État sur les grandes industries, qui sont des industries encore publiques, très déficitaires et qui ne fonctionnent pas selon les termes de l'économie posée par l'économie monde aujourd'hui. Donc on est dans une situation globalement relativement mauvaise. Maintenant, si on la compare à la situation d'il y a 25 ans pour les gens qui y étaient, on a l'impression que tout va beaucoup, beaucoup mieux. Ça ne va sans doute pas beaucoup mieux qu'il y a 10 ans, mais ça va beaucoup mieux qu'il y a 25 ans. Il faut dire aussi, parce que c'est un élément objectif, que c'est un pays dont le taux de croissance annuel est d'environ 6%. Alors 6% n'est pas beaucoup, puisque les bases sont basses, mais enfin un taux de croissance de 6% n'est pas un taux de croissance négligeable, même s'il est moindre que celui de la plupart des pays de la région. Donc il ne faut pas voir non plus la Birmanie comme un pays qui s'enfonce au quotidien, jour après jour. La Birmanie est un pays qui stagne sur des bases assez basses. Donc par rapport à tout cet environnement régional qui bouge, on peut dire qu'il régresse en termes relatifs, mais il serait faux de dresser un tableau sombre en disant qu'on est dans l'immobilisme absolu, que tout s'écroule, que tout s'effondre, que rien n'avance et que rien ne se passe.
Comment vit la population ? On a une image un petit peu peut-être réduite, on pense qu'elle subit beaucoup d'interdictions. Comment vous le voyez-vous sur le terrain en Birmanie ?
Alors moi, j'aurais tendance à établir cette petite distinction propre aux sciences politiques entre un État totalitaire et un État autoritaire. Il y a eu, à certaines époques, au moment du socialisme de Ne Win, après 1962, une tentation de totalitarisme, c'est-à-dire la volonté de régenter toutes les activités de la population de l'éducation, en passant par les mariages, en allant jusque évidemment le travail, la production et les échanges, bien sûr, l'embrigadement dans les organisations de masse, qu'on soit un jeune, une personne âgée, un ancien combattant, une femme, un producteur de poissons, que sais-je. Cette tentation maintenant a disparu. Depuis 1988, on est dans une forme d'économie de marché. La dictature est très jalouse de ses prérogatives dans certains domaines. Elle ne tolère aucune forme de contestation politique. Encore qu'en disant aucune forme, je suis un petit peu au-delà de la vérité, puisqu'il y a tout de même, malgré tout, une vague tolérance de l'existence de certains politiciens. Il y a une vague tolérance de certaines représentations des minorités ethniques, pas toutes. Mais on ne peut pas dire qu'il y a zéro tolérance politique. Disons que la tolérance politique est extrêmement basse et ne peut pas en tout cas contester le régime en ce qu'il est. On ne peut pas vouloir en Birmanie remplacer le régime sans s'exposer à des interdictions, à une répression assez sévère. On ne peut pas non plus s'engager dans des affaires à haut niveau qui, elles, sont toutes contrôlées par les sphères proches du pouvoir. Ça, c'est une deuxième limite. Maintenant, dans la vie quotidienne, quand qu'il s'agisse d'être commerçant, qu'il s'agisse d'être petit producteur de papier, de textile, de produits dérivés du riz, que sais-je, on est très peu gêné par le système. Il suffit de ne pas se mêler de ce qui ne vous regarde pas aux yeux du régime. Donc on n'est pas dans un régime totalitaire, on est dans un régime autoritaire dur, qui peut être très brutal quand il se sent menacé, mais qui n'est pas au quotidien, en tout cas pour la majorité de la population, pour ceux qu'on appelle les Bamars, qui n'est pas une gêne quotidienne.
On parle beaucoup de junte militaire, mais quand on vient à Rangoon, on ne la voit pas forcément. Est-ce que Rangoon est représentatif de la Birmanie, de ce qui se passe en Birmanie? On entend dire que ça se bat dans certaines régions. Est-ce que vraiment on en est à un état de guerre civile ou de génocide?
Alors écoutez, non, pour répondre à l'idée de guerre civile et de génocide, il y a des zones d'instabilité aux frontières, notamment dans l'État Shan, dans les zones proches de la Chine et de l'État Hua, pas un État, mais c'est une zone spéciale. Les Karen eux-mêmes maintiennent une forme d'insurrection. Cette insurrection est de niveau, je dirais, bas. C'est-à-dire qu'elle ne disparaît pas, elle se maintient, elle continue à gêner l'armée, mais ces guérillas ne maîtrisent aucune partie du territoire national en permanence, en dehors du cas très spécifique des Hua, mais avec l'accord des autorités de Rangoon. Mais sinon, ni les Shan ni les Karen, qui sont les deux principaux problèmes politiques insurrectionnels pour la junte birmane, il n'y a pas de partie du territoire qui échappe durablement et véritablement au contrôle de l'armée. Maintenant, la guérilla continue à exister. Le problème dans ces zones de guerre, entre guillemets, c'est que l'armée y règne en maître et que les exactions sont nombreuses envers la population civile, plus ou moins accusée, avec d'ailleurs souvent juste raison, d'avoir des sympathies pour les rebelles, et donc des paysans qui se trouvent confrontés à une armée brutale, des villages pillés, des brutalités, des viols. Tout ça sur des bases régulières, je vous dirais, mais on ne peut pas parler, en aucune façon, on ne peut parler de génocide, simplement parce que le nombre de morts, et c'est quand même un indicateur fort pour ce type de situation, est annuellement bas. On n'est pas dans des situations où l'armée essaie d'exterminer les populations. Ça ne se produit pas. Contrairement à ce qui se produisait, par exemple, en Indonésie, sous l'ordre nouveau du président Suharto qui vient de mourir, dans des régions comme Aceh, le Timor oriental ou la Nouvelle-Guinée occidentale.
Elle est néanmoins très dure avec quelques minorités ethniques.
Incontestablement, il y a un sentiment de supériorité, Bama, comme il y a souvent des sentiments de supériorité de la majorité envers les minorités. Le modèle culturel est clairement Bama, et en conséquence, on demande aux minorités ethniques de plier, de se soumettre, ou de disparaître en quelque sorte. Alors cette disparition passe par des exils. Il y a de très nombreux exilés en Thaïlande. Plusieurs dizaines de milliers de gens se sont réfugiés en Thaïlande. Il y a aussi des réfugiés encore au Bangladesh qui, là, de subir cette pression très dure, là, de subir ces brutalités, là, de voir leur village parfois rasé quand on les accuse de soutenir la résistance, là, de voir les femmes violées, décident de partir. Il y a ce sentiment de supériorité qui est insufflé à une armée, encore une fois, assez mal formée, avec notamment un impératif pour ces militaires, au-delà même du fait qu'ils puissent se montrer brutal à l'occasion, cette nécessité pour les militaires de subvenir à leurs propres besoins dans les zones d'opération, dans la mesure où leur traitement et les budgets qui leur sont alloués ne leur permettent pas en soi de survivre. Donc ils doivent avoir recours aux populations pour assurer leur subsistance à travers notamment les denrées alimentaires. Donc plus une région est insurrectionnelle, plus elle subit le poids de l'armée, plus elle a donc tendance à être encore plus insurrectionnelle. C'est un cercle vicieux bien connu.
Gabriel Defer, terminons sur une note d'avenir. Nous avons vécu donc à travers les médias la révolte en septembre 2007. Alors pouvez-vous nous dire un mot sur ces derniers événements et entrevoir l'avenir? Croyez-vous dans un changement futur ou proche?
Changement, il finit toujours par y avoir. Le tout est de savoir à quelle échéance. Depuis 1962, le régime n'a finalement guère changé. On est passé d'un régime militaire à un régime militaire sous une autre forme. Donc on est dans une espèce de stabilité. Je ressens le régime comme très fort. C'est toujours difficile de faire des paris sur l'avenir, mais je pense qu'il n'a jamais été aussi fort. À une petite nuance près, une subtilité près, c'est que le général Thanh Chuet, comme je vous le disais, est âgé et malade, qu'il n'est pas éternel, qu'il l'est, et qu'il faudra à un moment donné se poser la question de la succession. Et les questions de succession sont toujours un peu délicates à gérer. Je n'ai pas d'éléments particuliers sur cette succession. Ceux qui vous diront qu'ils en ont, sauf s'ils appartiennent à la junte elle-même, s'avancent exagérément. C'est une junte extrêmement opaque, difficile de dire ce qu'elle ménage. Ce que l'on peut dire en revanche, c'est qu'elle a une maîtrise sans précédent, je dirais même, de la situation politique, économique et sociale, en cela qu'elle maîtrise tout ce qui se passe et ce qui pourrait la mettre en danger. La population n'est absolument pas prête à jouer le jeu d'une insurrection, et on l'a vu d'ailleurs en septembre, quand les moines se sont mobilisés sur une préoccupation économique, l'augmentation du prix de l'essence. La population a été sensible à cette mobilisation, a voulu soutenir ses moines, mais sans aller du tout jusqu'à une contestation fondamentale du politique, pas de contestation massive, pas de manifestation massive, pas de mobilisation massive d'une population qui sait bien qu'en ce moment, le régime maîtrise bien tous les leviers du politique, quand il est acculé et capable d'être particulièrement brutal. Et puis, l'un dans l'autre, ménage des perspectives légères, faibles, mais qui font que, ben, pour beaucoup de gens, mieux vaut avoir son petit commerce, sa vie, voir ses enfants aller à l'école, plutôt que de prendre le pari d'une révolution dont on ne sait pas exactement où elle pourrait mener. Une chose est certaine, si demain il y avait une démocratie en Birmanie, la population ne choisirait pas de conserver ses dirigeants.
Juste une dernière question. Lorsque on est guidé plus par la loi des étoiles ou de l'astrologie que la loi juridique, purement juridique, est-ce qu'il n'y a pas matière à s'interroger sur un véritable état de gouvernance?
Alors d'une façon générale, je vous dirais qu'on est toujours, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en veuille, on est toujours plus sensible à l'astrologie, en utilisant ça en tout cas comme une image ou comme une métaphore. Il faut toujours remesurer les limites de ses propres rationalités. On voit toujours mieux les irrationalités des autres et on s'interroge jamais sur les nôtres propres, sur celles qui font qu'on va élire telle ou telle personne, sur telle ou telle, en foi de telle ou telle perception de ce qu'il est ou de ce qu'il peut apporter. Ce système-là lui-même a une part d'irrationnel que l'on ne mesure jamais véritablement. Alors évidemment, l'irrationalité chez les généraux birmans peut être assez palpable, on l'a vu au moment du déménagement de la capitale, où les données effectivement astrologiques ont joué leur part, ont joué leur rôle. Ça n'est pas l'unique paramètre, c'est le paramètre que l'on retient parce que c'est le paramètre exotique. Mais je crois que justement l'un des buts de ce livre, c'est d'arriver à faire la part des choses, mettre le doigt sur ce qu'on considère comme des paramètres exotiques, et puis derrière chaque paramètre exotique, il y a bien sûr des raisons pragmatiques, ici comme ailleurs. Comme derrière toutes les raisons pragmatiques qu'on invoque dans un état de droit comme le nôtre, il y a toujours une part de subjectivité, voire d'irrationalité.
Merci Gabriel Defer. Thank you. à présent des Natkado, les hommes médiums qui transgressent la nature et s'approprient le mystère de la féminité. Nous écoutons Isabelle Gruet, réalisatrice artistique. Nous vous prions d'excuser la qualité de l'écoute.
Les Natkado sont donc des médiums travestis. Ils officient en fait pour attirer, pour se concilier les esprits, les nattes, qui sont des héros en fait de légendes populaires, souvent morts dans des conditions atroces, donc morts de malmort, et qui ont un lien avec les dynasties royales. Souvent même il s'agit de princes et parfois de rois, qui ont donc rencontré des obstacles et sont vraiment morts de manière tragique. Certains sont aussi des ouvriers qui auraient pu périr dans les fondations de temples. Les histoires sont extrêmement varié. Alors, le médium en soi, en tant qu'être humain, est vraiment un personnage très important dans la communauté birmane, dans tous les milieux urbains et ruraux, dans toutes les catégories socioprofessionnelles également. Mais on note que c'est quand même que les rituels sont surtout fréquentés par des gens de milieux modestes.
Parce que les Birmans croient dans les esprits.
La culture populaire est profondément animiste en Birmanie. Elle a été rejointe en fait par le bouddhisme, mais évidemment, comme dans toute société traditionnelle, les éléments animistes sont toujours présents. Je dirais que, si vous voulez, ce qui est un petit peu particulier en Birmanie, c'est que le culte bouddhiste ne s'est absolument pas substitué aux croyances animistes, je dirais, pas primitives, en tout cas qui étaient là au tout début, mais ne fusionne pas non plus, mais en tout cas cohabite de manière tout à fait cohérente. Et sans conflit. Donc vous allez trouver représentation même des nattes, des esprits, dans les pagodes, sans problème. Donc vous voyez, ce sont vraiment deux cultures qui sont actives et qui ne génèrent absolument aucun conflit, aucun vraiment problème de conscience.
Une particularité des Natkado, vous l'avez dit, c'est le travestissement.
C'est quelque chose qui ne dérange pas parce que c'est une pratique qui est intégrée justement à un culte. Donc travestissement, le travestissement est nécessaire en fait, il permet la transformation du corps et donc la transformation de l'état et le passage de l'être humain à un être intermédiaire. Donc le médium doit en fait se travestir pour se préparer au rituel. Si vous voulez, ce qui est assez étonnant en même temps, c'est qu'un des plus grands festivals birmans de rituels, c'est le festival de Tangyeom, qui a lieu donc à la pleine lune du mois d'août. Tous les ans, rassemble vraiment des millions de birmans, en tout cas plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers. Et on y rencontre effectivement beaucoup d'hommes efféminés, au point que l'on peut se demander si finalement ces pratiques et ce festival n'est pas aussi un moyen d'intégrer à la société de manière finalement harmonieuse les homosexuels, tout simplement, parce que c'est vrai que la plupart des médiums sont quand même homosexuels, enfin, il faut.
Imaginons une cérémonie, comment va-t-elle être organisée?
Comment ça s'orchestre? En fait, le napoué, hein, donc poué c'est spectacle, et nat c'est esprit, donc c'est un peu le fruit, c'est la représentation des esprits. Il peut être simplement programmé, on va dire, à date fixe dans des villages ou dans des villes. Il peut également être commandé par des familles, des particuliers, qui souhaitent s'acquérir les bons auspices des esprits, enfin qui souhaitent faire fructifier une entreprise par exemple, ou obtenir donc des conseils. Il y a vraiment plusieurs contextes possibles. Donc ça peut se dérouler dans des pagodes, ça peut se dérouler chez des particuliers. Ensuite, ces cérémonies sont quand même souvent assez coûteuses et il faut intervenir l'argent. C'est une donnée assez intéressante. Prenons l'exemple d'une famille donc, qui souhaite organiser un rituel. Donc en fait, elles vont faire appel à un médium et à une troupe de médiums, parce que souvent le médium n'intervient pas seul, hein, il intervient avec d'autres danseurs, d'autres médiums, même si lui reste le maître de cérémonie, qui s'entourent de musiciens et qui s'entourent de chanteurs. La communauté en général est très fortement présente dans ce rituel, elle participe beaucoup, elle est très importante. Et donc vous allez voir au cours des différents tableaux en fait qui représentent les vies de ces héros morts de malmort, des gens qui vont se lever et qui vont apostropher le médium pour lui poser des questions, pour faire des choix, pour prendre des décisions importantes. L'argent circule, il circule donc de la famille d'accueil au médium, de la communauté au médium, puis du médium vers les musiciens et chanteurs qui sont rémunérés donc de cette façon-là. L'argent peut revenir aussi à la communauté. À un certain moment, le médium redistribue cet argent, il fait voler, donc c'est assez spectaculaire. voilà, c'est intéressant parce que c'est vraiment un rituel qui fait intervenir là aussi beaucoup de paramètres et beaucoup d'individus différents. Il est possible donc aussi qu'il se déroule dans les pagodes, comme je l'ai dit, et sur un modèle assez similaire. Ça permet là aussi, je pense, aux pagodes de récupérer sur le rituel quelques dividendes. Je pense qu'il s'agit quand même plutôt de conseils que de voyances réellement, à proprement parler. Et je pense que dans la danse des médiums, il y a aussi beaucoup de spectaculaires et plus que de divination à proprement parler. Certains artistes gagnent des milliers de dollars par soirée, il faut dire. Les médiums aussi, les plus célèbres, évidemment, sont, je ne dirais pas richissimes, mais enfin, on réussit à, je pense, à collecter beaucoup d'argent à travers ces rituels. Mais les danseurs les plus célèbres en Birmanie, qui dansent dans les fameuses apui, qui sont les fêtes populaires, vraiment raflent des sommes parfois exorbitantes, et on n'a pas de cachet, tout simplement.
Jusqu'à combien peuvent-ils toucher ?
Enfin, je sais pas, celui qu'on a abordé, il demandait plus de 5000 euros par soirée. Voilà. Donc,
en Birmanie, vraiment, on peut gagner autant en une soirée.
Tout à fait. Parce qu'en fait, ce sont des spectacles qui rassemblent énormément de personnes. Il y a une billetterie aussi. Mais je pense que ça fonctionne un petit peu comme partout. Et je pense que les villes aident aussi. Les artisans ont des agences. Enfin, c'est structuré. C'est tout à fait structuré.
D'accord.
Les artistes sont ambitieux, ils ont... Alors, on peut jouer aussi sur le fait qu'il s'agit de l'étranger, d'une date à l'étranger, d'une tournée à l'étranger, prestigieuse, à Paris, etc. Mais bon, parfois, on n'est pas toujours aussi convaincant qu'on souhaiterait l'être. Voilà, alors sinon, après, c'est toujours un petit peu plus difficile aussi de faire venir des enfants. Il faut des autorisations parentales, enfin, les processus, les rouages sont plus difficiles parfois. Il a été assez difficile au tout début, donc autour de l'an 2000, de commencer à faire sortir ces artistes pour des raisons que vous connaissez. Et puis progressivement, en fait, les tournées se sont mises en place de manière régulière. Et nous avons finalement été reconnus comme des agents bénéfiques, en tout cas, de cette diffusion de la culture birmane à l'étranger.
Merci Isabelle Gruet et merci à vous internautes d'avoir écouté cet éclairage dédié à la Birmanie. Vous pouvez retrouver le détail de ces informations grâce au livre « La Birmanie contemporaine » publié aux éditions Les Indes Savantes. Bien sûr, vous pouvez télécharger cette émission sur canalacademy.com et je vous dis à très bientôt.